Épître de Jacques, chapitre 1er, verset 1, citation de l'Écriture. Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Fin de citation. L'auteur de l'Épître s'intitule « Esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ ». Tout permet de penser qu'il s'agit du Jacques qui a eu une place prédominante parmi les croyants d'entre les Juifs à Jérusalem. Actes 12, verset 17, 15, verset 13, 21, verset 18, Galates 2, verset 12. Cet apôtre semblerait spécialement qualifié pour adresser une épître aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. C'est à elles qu'il envoie sa salutation. Pour comprendre cette épître, il convient de se souvenir de la position des croyants d'origine juive en Judée et à Jérusalem, telle qu'elle nous est présentée dans les Actes des Apôtres. Il est clair qu'à cette époque, un grand nombre de croyants ne s'étaient pas vraiment séparés du système juif. Nous en voyons qui persévéraient d'un commun accord dans le temple. Plus loin, nous trouvons une grande foule de sacrificateurs qui obéissaient à la foi. Nous lisons ailleurs que quelques-uns de la secte des pharisiens qui avaient cru insistaient sur la nécessité de circoncire les croyants. Enfin, il est question de milliers de juifs qui avaient cru et étaient tous zélés pour la loi, lesquels, semble-t-il, n'avaient même pas renoncé aux sacrifices, aux offrandes et aux coutumes juives. Actes 2, verset 46, 3, verset 1, 6, verset 7, 15, verset 5, 21 verset 20. C'était certes une condition anormale, mais il s'agissait d'une période de transition, le passage du judaïsme au christianisme, et, dans cet intervalle, Dieu supportait beaucoup de choses qui n'étaient pas selon sa pensée. Nous le savons par l'Épître aux Hébreux, écrite plus tard dans le but principal de séparer entièrement les chrétiens du système juif. Ils sont exhortés à sortir hors du camp et à rompre leur lien avec la religion terrestre pour occuper leur position céleste en relation avec Christ dans la place de l'opprobre. En outre, il semble que, dans cette époque transitoire, Dieu reconnaissait officiellement comme son peuple non seulement les chrétiens associés aux Juifs, mais aussi les 12 tribus au milieu desquelles ils se trouvaient, bien que, seuls parmi ceux-ci, les croyants aient eu la foi qui confessait Jésus comme Seigneur. Ainsi, l'Épître n'est pas adressée à l'Église comme telle, ni exclusivement aux chrétiens d'entre les Juifs. Elle est destinée aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, tout en reconnaissant et en exhortant particulièrement les chrétiens au milieu d'elles. Cette Épître a été souvent mal comprise, et il est à craindre assez négligée par les vrais croyants, qui n'ont pas su discerner son vrai caractère. On a bien vu qu'elle répondait à la première phase du christianisme, avant que les croyants se soient séparés de la nation d'Israël, mais on en a faussement déduit qu'elle avait peu d'application directe pour nos jours où la pleine lumière des vérités concernant l'Église et ses bénédictions célestes a été révélée. Quant au fait, l'histoire s'est répétée, et, aujourd'hui comme autrefois, les chrétiens fidèles se trouvent disséminés au milieu d'une vaste profession religieuse qui, de même que les 12 tribus, n'est pas païenne, mais prétend reconnaître le vrai Dieu. C'est pourquoi l'Épître, qui répondait à la première phase du christianisme, a une application toute spéciale à la période de la fin. Ne nous attendons pas à trouver dans ces 5 chapitres un exposé de la doctrine chrétienne, ni non plus la présentation des privilèges exclusifs de l'Assemblée. Toutes ces vérités si importantes sont développées dans d'autres épîtres inspirées. L'objet principal de celle qui nous occupe est d'interpeller ceux qui portent le nom de peuple de Dieu et d'exhorter les croyants à une marche pratique qui prouve la réalité de leur foi en contraste avec la profession religieuse au milieu de laquelle ils se trouvent. La conduite chrétienne doit toujours avoir une grande importance, et jamais autant que quand une religion de pure forme s'est parée des vêtements du christianisme sans la foi personnelle au Seigneur Jésus. Ici donc, notre foi est éprouvée, et notre conduite sondée. Le chapitre 1 place devant nous la vie chrétienne pratique. Le chapitre 2 présente la vie pratique comme la preuve de notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Les chapitres 3 et 4 font défiler devant nous sept différentes fautes qui caractérisent la vaste profession religieuse et dans lesquelles le vrai chrétien est en danger de tomber sans la grâce de l'Esprit de Dieu. Dans le chapitre 5, l'apôtre met en contraste l'état de la masse professante et celui des enfants de Dieu dans la souffrance et présente la venue du Seigneur en relation avec les deux classes. Versets 2 à 27. La vie chrétienne pratique. Le premier chapitre présente le grand sujet de l'épître, le développement d'un caractère chrétien complet au sein d'un système religieux sans vie. Versets 2 à 8. Citation de l'Écriture. Estimez-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous serez en butte à diverses tentations, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais que la patience est son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu qui donne à tous libéralement et qui ne fait pas de reproches, et il lui sera donné. Mais qu'il demande avec foi, ne doutant nullement. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et jeté çà et là. Or, que cet homme-là ne pense pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur, il est un homme incertain dans ses pensées, inconstant dans toutes ses voies. Fin de citation. L'apôtre commence par nous encourager à nous réjouir dans les épreuves, celles-ci devenant l'occasion de développer la vie pratique de piété. D'abord, il nous dit qu'elle constitue comme un test de la réalité de notre foi. Deuxièmement, elles sont le moyen dont Dieu se sert pour produire la patience. Troisièmement, si la patience a son œuvre parfaite, elle aboutira à une vie chrétienne bien équilibrée dans laquelle notre volonté sera bridée et celle de Dieu accomplie. Pour cela, il faut que la patience puisse avoir son œuvre parfaite. L'œuvre de la patience consiste à briser la confiance en soi et la volonté propre et à nous enseigner que, séparés de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Lorsque la patience aura eu son œuvre parfaite, l'âme manifestera sa soumission à Dieu dans l'épreuve en s'inclinant devant ce qu'il permet et en s'attendant au Seigneur. C'est une chose bonne qu'on attende et dans le silence, le salut de l'Éternel. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 26. L'apôtre commence donc par présenter de quelle manière Dieu développe dans les siens une vie accomplie, ne manquant d'aucun caractère chrétien. Cette vie a été parfaitement manifestée en Christ sur la terre, au milieu des épreuves et des souffrances. Elle l'est dans les croyants par l'épreuve et la souffrance. Toutefois, même si la volonté est soumise et même si nous désirons vraiment faire la volonté de Dieu, il peut nous arriver souvent dans nos épreuves de manquer de sagesse pour agir selon sa volonté. Si l'un d'entre nous se trouve dans ce cas, qu'il demande à Dieu, dit l'apôtre. Dieu est notre ressource. Nous pourrions appréhender de nous adresser aux hommes, non seulement parce que leurs conseils risqueraient de ne pas être bons, mais parce qu'ils pourraient le donner à contre-cœur, blâmer notre ignorance ou trahir notre confiance. Avec Dieu, nous n'avons rien à craindre. Il donne libéralement sans nous reprocher nos inconséquences et notre faiblesse. Le besoin qui nous conduit à Dieu devient une occasion de développer notre foi. Aussi sommes-nous exhortés non seulement à demander à Dieu, mais encore à le faire avec foi, ne doutant nullement. En nous adressant à Dieu, nous devons compter sur une réponse à nos prières. Douter que Dieu répondra en son propre temps et à sa propre manière prouverait que notre esprit est semblable au flot de la mer agité par le vent et jeté çà et là. La vague est le jouet des vents, venant de quelque direction que ce soit. Ne nous laissons pas influencer dans nos prières par la difficulté des circonstances ou par la puissance de mal qui est contre nous. Avec une foi simple, regardons à celui qui est au-dessus de toutes les influences contraires, à celui qui peut marcher sur les vagues et apaiser la tempête. Lui seul est en mesure de nous donner la sagesse d'agir selon sa volonté. Les prières que nous adressons à Dieu sont peut-être souvent arrêtées par l'incrédulité qui regarde aux circonstances. Si nous sommes incertains dans nos pensées, nous serons inconstants dans toutes nos voies, et nous nous laisserons entraîner dans un sens ou dans l'autre, selon que les circonstances nous paraîtront favorables ou non. Versets 9 à 12. Citation de l'Écriture. Or, que le frère de basse condition se glorifie dans son élévation, et le riche dans son abaissement, car il passera comme la fleur de l'herbe. Car le soleil s'est levé avec sa brûlante chaleur et a séché l'herbe, et sa fleur est tombée, et la grâce de sa forme a péri. Ainsi aussi, le riche se flétrira dans ses voies. Bienheureux est l'homme qui endure la tentation, car, quand il aura été manifesté fidèle par l'épreuve, il recevra la couronne de vie qu'il a promise à ceux qu'il aime. Fin de citation. Nous pourrions aussi chercher une échappatoire aux épreuves dans notre situation sociale ou de fortune. Comme croyants, nous devrions nous réjouir de ce que notre position devant Dieu ne dépend en aucune façon de notre rang social dans ce monde. Le frère de basse condition a de quoi se réjouir de ce que le christianisme l'a élevé à une nouvelle position spirituelle infiniment supérieure à toute la gloire que ce monde peut offrir. Il a part avec Christ et les siens dans le temps présent. Il aura part à la gloire de Christ dans le monde à venir. Souvenons-nous que Dieu a choisi les pauvres quant au monde, riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. Les riches, de leur côté, ont de quoi se réjouir dans leur abaissement. Leurs possessions terrestres et les honneurs humains ont cessé d'avoir de l'emprise sur eux maintenant qu'ils ont part aux richesses insondables du Christ. Comparés à Christ et à sa gloire, les distinctions et les richesses de ce monde ne sont que des fleurs qui se fanent et périssent. L'apôtre Paul, après avoir trouvé Christ dans la gloire, regarde tous ses avantages terrestres comme une perte. Plus encore, il les estime comme des ordures. Le chrétien qui se glorifie dans sa naissance et sa position sociale se glorifie dans ce que l'apôtre, pour ce qui le concernait, couvre de mépris. Quelqu'un a dit : le monde passera, et l'esprit de ce monde a déjà passé du cœur du chrétien spirituel. Celui qui prend la place la plus basse sera grand dans le royaume de Dieu. Pensée de J.N. Darby. Uni par les liens de l'amour divin, le pauvre et le riche peuvent laisser en arrière tout ce qui touche à la position dans le monde et aux possessions terrestres pour jouir ensemble des choses qui se rattachent à cette précieuse communion à laquelle ils sont l'un et l'autre appelés, la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. 1 Corinthiens 1, verset 9. Bienheureux l'homme, riche ou pauvre, qui évite ses pièges et endure l'épreuve, ne regardant qu'au Seigneur pour connaître sa pensée et marcher dans l'obéissance à sa volonté. Il réalise la vie chrétienne pratique et lorsque le sentier de la foi avec ses épreuves sera terminé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Souvent, nous nous rebellons dans les épreuves parce que nous sommes égoïstes et voulons nous défendre et nous justifier. Mais si nous l'aimions, lui, davantage, nous serions prêts à souffrir pour lui. Versets 13 à 15. Citation de l'Écriture. Que nul, quand il est tenté, ne dise « Je suis tenté par Dieu ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et lui ne tente personne. Mais chacun est tenté, étant attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise ayant conçu enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Fin de citation. L'apôtre nous met ensuite en garde contre un autre caractère de l'épreuve. Il a parlé de l'épreuve de la foi dues aux circonstances extérieures, versets 2 et 3, maintenant il nous invite à ne pas confondre cette forme de tentation avec celle qui provient de la chair qui est en nous. Dieu peut nous éprouver par les circonstances extérieures, mais lui ne peut être tenté par le mal, ni non plus induire un homme à faire le mal. Nous pouvons, nous, par la convoitise qui est en nous, être tentés par le mal et être ainsi entraînés à le faire. C'est parce qu'il a été séduit par la convoitise de l'argent dans son cœur que Judas est tombé dans la tentation du diable qui l'a amené à satisfaire son désir en trahissant le Seigneur. La convoitise en lui a conduit au péché de la trahison et le péché de la trahison a produit la mort. Versets 16 à 18. Citation de l'Écriture. Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés. Tout ce qui nous est donné de bon et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a pas de variation ou d'ombre de changement. De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de la vérité pour que nous soyons une sorte de prémisse de ses créatures. Fin de citation. En contraste avec le mal venant de la chair, tout ce qui nous est donné de bon et tout don parfait ne peut venir que de Dieu. Le mot grec traduit par « ce qui est donné de bon » se réfère au fait de donner, tandis que « don parfait » se rapporte à la chose donnée. Tout ce qui est bon, tant dans la manière de donner que dans la chose elle-même, vient de Dieu. Il est aussi le Père des Lumières. Dans le monde physique, c'est lui qui a placé les luminaires dans l'étendue des cieux pour donner de la lumière sur la terre. Il est également la source de toute lumière spirituelle. Aucune ténèbre ne vienne de lui. Il est non seulement bon et lumière pure, mais toute bonté et toute lumière viennent de lui. Et en lui, il n'y a pas de variation ou d'ombre de changement. Il ne change pas avec nos circonstances instables ou nos dispositions variables. Nous avons une expression magnifique de la bonté de Dieu dans le don qu'il nous a fait d'une nouvelle nature pour que nous soyons une sorte de prémisse de ses créatures. Ayant cette nouvelle nature produite en nous par la parole de la vérité, nous devenons les prémices de la nouvelle création. Versets 19 à 21. Citation de l'Écriture. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute saleté et tout débordement de malice, recevez avec douceur la parole implantée qui a la puissance de sauver vos âmes. Fin de citation. Ainsi, le chrétien est appelé à être un témoin de la nouvelle création, en vivant dans la puissance qui opère par la nouvelle nature, au lieu d'agir selon les désirs corrompus de l'ancienne. Nous sommes appelés à nous comporter d'une manière pratique conséquente avec cette nouvelle nature. Nous devons être prompts à écouter, lents à parler et lents à la colère. Écouter correspond à une attitude de dépendance, attentive à ce que Dieu dit. Parler, c'est exprimer nos propres pensées. Nous devons donc être prompts à écouter les paroles de Dieu, expression de sa pensée et de sa volonté, et être lent à exprimer ce qui trop souvent ne fait que manifester notre nature et notre volonté. En outre, il nous faut non seulement être lent à donner expression aux pensées de notre esprit, mais aussi lent à la colère qui traduit les sentiments de notre cœur. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu et n'est pas compatible avec la piété. Aussi sommes-nous exhortés à rejeter toute saleté de la chair et tout débordement de malice du cœur qui se manifeste par des paroles vives et une colère injuste. Nous devons juger le mal qui se cache derrière les paroles malicieuses et les explosions de colère. Cela non pas en cherchant à obéir à une loi extérieure, propre seulement à exciter la chair, mais en rejetant chacune de ces phases et en recevant avec douceur la parole de Dieu implantée. C'est la parole reçue dans l'âme, non pas avec des raisonnements et des questions, mais dans la douceur qui se soumet à ce que Dieu a à dire. La parole ainsi implantée dans l'âme agira pour nous délivrer de tout le mal de la chair et du monde. Nous sommes ainsi non seulement engendrés par la parole, mais nous sommes transformés dans notre caractère et nous croissons dans la grâce par la même parole. Versets 22 à 25, citation de l'Écriture. Mais mettez la parole en pratique et ne l'écoutez pas seulement, vous séduisant vous-même. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui considère sa face naturelle dans un miroir, car il s'est considéré lui-même et s'en est allé, et aussitôt il a oublié quel il était. Mais celui qui aura regardé de près dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux mais un faiseur d'œuvres, celui-là sera bien heureux dans son faire. Fin de citation. Nous avons été exhortés à être prompts à écouter ce que Dieu nous dit dans sa parole. Maintenant, nous sommes engagés à mettre en pratique ce que nous entendons. Nous devons être des faiseurs de la parole, non pas seulement des auditeurs. Qu'est-ce sinon l'écho des paroles même du Seigneur? Si vous savez ces choses, vous êtes bien heureux si vous les faites. Jean 13, verset 17. Quelqu'un a dit que cette déclaration pourrait être considérée comme une évidence et même une banalité. Dans la pratique, rien ne saurait être plus nécessaire, tant nous sommes enclins à nous contenter d'approuver ou d'admirer une belle action ou une bonne attitude, comme si nous l'avions accomplie nous-mêmes. Retenons bien cette exhortation. Celui qui se vante de connaître la parole sans la mettre lui-même en pratique ne fait que s'abuser sur sa vraie condition devant Dieu. Il ne se sert de la parole que comme d'un miroir dans lequel il se considère un moment, puis il oublie tout. Ses voies ne sont pas gouvernées par la parole. Celui qui possède la nouvelle nature et qui est conduit par la parole découvrira que celle-ci est la loi parfaite, celle de la liberté. La loi de Sinaï était écrite sur des tables de pierre. Elle n'inscrivait rien sur le cœur. Elle disait aux hommes ce qu'ils devaient faire, mais ne leur donnait ni le désir, ni la capacité d'obéir. Recevoir l'ordre de faire ce que je ne désire pas du tout faire n'est rien d'autre que de l'esclavage, même si j'obéis. Maintenant, par la parole de Dieu, non seulement une révélation parfaite de la volonté de Dieu nous a été donnée, mais aussi, par la même parole, une nouvelle nature a été engendrée en nous, laquelle se plaît à agir selon la parole. Recevoir le commandement de faire ce que je désire faire, c'est la liberté. La parole de Dieu devient ainsi une loi de la liberté, et celui qui est conduit par cette loi-là sera bien heureux dans son faire. Versets 26 et 27. Citation de l'Écriture. Si quelqu'un pense être religieux, et qu'il ne tienne pas sa langue en bride, mais séduise son cœur, le service religieux de cet homme est vain. Le service religieux pur et sans tache devant Dieu le Père est celui-ci, de visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, de se conserver pur du monde. Fin de citation. Les derniers versets du chapitre nous invitent à la piété pratique selon la parole de Dieu qui porte avec elle la bénédiction de Dieu. La langue trahit vite la simple prétention d'être religieux. La langue débridée démasquera bientôt un cœur dans lequel la convoitise et la méchanceté ne sont pas jugées. La religion pure se manifestera non pas dans des paroles, mais en pratique. Elle conduira à la sympathie envers les affligés et à la séparation du monde. Certains essaieront peut-être d'agir conformément à une partie du verset et oublieront l'autre. On peut accomplir beaucoup de bonnes œuvres et marcher cependant la main dans la main avec le monde. Ou, au contraire, on réalisera la séparation du monde, mais on négligera les bonnes œuvres pratiques. Le service religieux pur et sans tache réclame l'obéissance aux deux exhortations. Celui qui va au-devant des besoins du monde doit veiller à ne pas être souillé par sa méchanceté. Avec quelle perfection ce service religieux pur et sans tache n'a-t-il pas été accompli par Christ? Quelqu'un a dit : Sa sainteté a fait de lui un parfait étranger dans un monde si souillé. Sa grâce a fait de lui un parfait serviteur dans un monde si misérable et affligé. Bien que contraint à la solitude morale par la scène de péché qu'il traversait, il était poussé à l'activité d'amour par la misère et les besoins qu'il y rencontrait. Pensée de J.G. Bellet. Ainsi, dans ce premier chapitre, l'apôtre place devant nous la vie chrétienne pratique, fortifiée par les épreuves et la dépendance de Dieu, vécue dans la puissance d'une nouvelle nature qui se plaît à écouter la parole de Dieu et à lui obéir, se manifestant dans l'amour qui va au-devant des pauvres dans ce monde, mais dans la sainteté qui marche dans la séparation de ce dernier.